Le journal de 6h vous est présenté par Roman Oquet. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Une montagne de téléphones portables hors service broyés à l'aide de massue. Les professionnels du reconditionnement passeront à l'action à midi devant le Sénat. Ils protestent contre un projet de taxe baptisé « Rémunération pour copie privée » et destiné au monde de la culture. Elle ne concerne pour l'instant que les appareils neufs.
Pour le secteur du reconditionné, une nouvelle taxe, c'est potentiellement le risque de freiner le développement d'une filière en plein boom. L'année dernière, 15% des téléphones vendus en France sortaient d'un atelier de reconditionnement. Les explications de Louise Salé.
Acheter un smartphone reconditionné, c'est-à-dire usé mais réparé, c'est économique, mais c'est surtout écologique. Frédéric Bordage est fondateur de Green IT, un collectif d'experts en numérique responsable.
Pour fabriquer un smartphone qui pèse à peu près 150 grammes, on va avoir 800 à 1000 fois son poids en matière première. On va consommer jusqu'à 3000 litres d'eau, puis beaucoup d'impact sur la biodiversité aussi.
Fabriquer un téléphone consomme énormément d'énergie fossile, d'une part pour extraire les métaux, d'autre part pour les transformer en batterie, et enfin pour transporter le nouveau smartphone jusqu'en France. Sachant que nous changeons en moyenne de portable tous les 2 ans, ce bilan carbone peut être considéré comme désastreux. Mais il pourrait être réduit grâce au marché de l'occasion.
Si tout le monde se met à utiliser un smartphone reconditionné en France, alors on économise 700 000 tonnes équivalent CO2, ce qui représente 17 000 tours du monde par an en véhicule thermique. On peut littéralement diviser par 2 l'impact de nos smartphones.
La filière espère que son message influencera les sénateurs. Le vote de la loi est prévu le 2 novembre prochain.
Louise Salé, spécialiste environnement d'Europe 1. Les derniers arbitrages sont en cours. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, promet une mesure simple, juste, efficace d'ici la fin de la semaine pour contrer la flambée des prix du carburant. Parmi les options sur la table, une baisse temporaire de la fiscalité, une sorte de taxe flottante qui remonterait automatiquement lorsque le carburant repasse sous un certain prix, ou bien le fameux chèque carburant.
150 000 pour Valérie Pécresse, 250 000 pour Éric Ciotti, qui dit mieux?
À 6 semaines du congrès qui doit désigner le champion de la droite, les candidats font monter les enchères quant à la suppression du nombre de postes de fonctionnaires. Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes, était l'invité de Laurence Ferrari hier soir sur Europe 1.
Je propose la suppression sur le quinquennat de 250 000 postes d'agents publics, notamment qui serait d'ailleurs permis par le passage, le retour aux 39 heures dans la fonction publique.
Valérie Pécresse en propose la suppression de 150 000.
C'est pas suffisant. Moi, je suis de 150 000.
C'est pas suffisant.
C'est la moitié du programme Fillon. Voilà, l'équilibre du programme Fillon, c'était une autre période. Je revendique une grande partie du programme de François Fillon. Je suis sur 250 000.
Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes, invité de Punchline sur Europe 1.
Comment lutter contre la pédocriminalité dans l'Église catholique de France? Eh bien, 2 semaines après la publication du rapport Sauvé, les évêques de France peinent à se mettre d'accord.
Et pourtant, le temps presse. Dans une dizaine de jours, la conférence des évêques se réunit à Lourdes. Premier rendez-vous depuis le séisme de ce rapport. Virginie Riva, est-ce qu'on peut s'attendre à des propositions?
Alors, à ce stade, la conférence des évêques ne sait pas s'il y aura des annonces concrètes dès la fin de l'assemblée plénière à Lourdes le 8 novembre. La priorité reste toujours l'indemnisation des victimes, mais la question du qui paie est loin d'être tranchée. Jean-Marc Sauvé préconise de ne surtout pas faire appel aux dons des fidèles parce qu'ils ne sont pas, selon lui, responsables des crimes commis. Injonction impossible, nous dit-on à la conférence des évêques, car l'Église vit uniquement des dons de ses fidèles et même son patrimoine immobilier en serait issu. Des victimes seront présentes pour travailler avec les évêques et à Lourdes, une plaque sera dévoilée après une prière pénitentielle de l'Assemblée, en attendant qu'un lieu mémoriel soit construit, sans doute également à Lourdes. Des gestes qui pourraient ne pas être à la hauteur des demandes de réforme alors que les appels de victimes continuent d'arriver dans l'Église. D'autant que pour les questions canoniques, l'Église de France prévient, ça prendra du temps, car ça relève de Rome. Jean-Marc Sauvé sera d'ailleurs reçu par le pape François, mais début décembre.
Virginie Riva. Les hôpitaux à nouveau sous tension, mais cette fois rien à voir avec le Covid. L'épidémie de bronchiolite se propage dans toute la France. Les enfants confinés l'année dernière ont jusqu'à présent échappé aux maladies hivernales. Revers de la médaille, leur système immunitaire est bien moins performant.
1800 petits Français sont déjà passés aux urgences. En Île-de-France et dans le Grand Est, certains services de réanimation frôlent même la saturation. Fabienne Cochère est la présidente de l'Association française de pédiatrie ambulatoire.
en général, en hiver, les services de pédiatrie sont surchargés. Là, la surcharge commence beaucoup plus tôt que prévu. Donc, les équipes n'ont pas pu être renforcées comme les années précédentes et il n'y a pas de lits supplémentaires qui ont pu être prévus dans les services de soins intensifs pédiatriques. Les équipes sont débordées. Il faut voir en même temps beaucoup d'enfants, il faut évaluer chaque situation. C'est aussi source de stress pour les parents. La seule prévention, c'est vraiment les mesures barrières. Il faut bien aérer les maisons, ne pas trop chauffer, garder une température plutôt autour de 20 degrés pour éviter beaucoup, beaucoup de tracas aux familles.
Fabienne Cochère, présidente de l'Association française de pédiatrie ambulatoire, joint par Zoé Pallier.
Et avec l'arrivée de l'hiver, le Covid aussi reprend des forces. L'épidémie repart légèrement à la hausse avec un taux d'incidence qui frôle désormais le seuil d'alerte fixé à 50 cas pour 100 000 habitants. Des chiffres probablement sous-estimés selon les autorités depuis la fin de la gratuité des tests de dépistage.
Et justement, par rapport à ces tests payants, eux ont décidé de mettre la main à la poche. Le groupe IAM, qui a commencé sa tournée hier soir à Nancy, paie les tests anti-Covid de leurs fans qui refusent de se faire vacciner, qui n'ont donc pas de passe sanitaire. Si le groupe défend la liberté individuelle, le leader s'est déjà engagé contre le passe sanitaire et le vaccin.
Ça va leur coûter cher, IAM. Merci beaucoup, Romain Oquet, pour ce journal.
Il est 6h30.